France Culture.
La science CQFD, Natacha Trioux.
Depuis que l'on a découvert dans les années 90 que l'univers est en expansion accélérée, on ne parvient pas à expliquer cette dynamique ni à élucider la nature de l'énergie noire. Comment le programme DESY vient-il sonder cette énigme ? Cette composante invisible, qui constitue 70% du cosmos, reste un mystère. Le projet DESY réunit plus de 900 chercheurs dans le monde entier pour tenter de percer ce secret. Avec ses 5000 yeux robotisés, cet instrument a cartographié en 3D 40 millions de galaxies sur 11 milliards d'années d'histoire cosmique, la plus grande carte jamais réalisée. Ces derniers résultats sont troublants. L'énergie noire ne serait pas constante, comme on le pensait, mais évoluerait au cours du temps. Si cela est confirmé, quelles seraient les conséquences d'une constance inconstante ? Énergie noire, dans les yeux de DESY. Pauline Zarouk, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cosmologiste chargée de recherche CNRS au laboratoire de physique nucléaire et des hautes énergies à Sorbonne Université. Étienne Burtin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicien à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers du CEA de Saclay et ancien co-responsable du groupe d'analyse des données de DESY. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ici dans nos studios à France Culture. Et puis merci à vous également d'être là au rendez-vous en direct ou à toute heure en podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur Blue Sky, sur notre compte AdSense CQFD. D'ailleurs, un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur cette plateforme. Alors, comment est conçu l'instrument DESY? Quelles sont ses prouesses technologiques et quelle est la stratégie d'observation de ce programme? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais on commence avec la découverte de l'expansion de l'univers et c'est notre archive du jour qui date de 1949.
La matière primordiale se trouvait entièrement rassemblée, condensée en une espèce d'atome unique, l'atome primitif, auquel il est impossible d'accoler l'épithète de gigantesque, pour la raison que l'espace n'existait pas encore, non plus d'ailleurs que le temps. Comment l'abbé Lemaître est-il parvenu à cette extraordinaire conception ? Eh bien, il est parti de la théorie de l'univers en expansion. Les calculs effectués d'après les études spectrales ont permis à l'abbé Lemaître de formuler cette loi simple: la vitesse de récession des nébuleuses est proportionnelle à leur distance. Loi qui sert maintenant parfois pour évaluer la distance d'une nébuleuse. Cette vitesse croît de 160 km par seconde par million d'années-lumière, si bien que les nébuleuses les plus lointaines dont on a pu obtenir le spectre, et qui sont à 280 millions d'années-lumière, s'éloignent avec une vitesse de 45 000 km par seconde. Si, dans toutes les directions du ciel, les nébuleuses s'enfuient ainsi, tout se passe comme si l'univers se dilatait à la façon d'une bulle. Dans ces conditions, où va-t-il donc l'univers ? L'abbé Lemaître nous répond: vers une dilatation au terme de laquelle tout s'évanouira.
Voilà un extrait de l'heure de culture française sur la RDF en 1948. Pauline Zarouk, voilà cette histoire de l'énergie noire, faut la faire remonter quand même avec cette découverte déjà de l'expansion de l'univers par Hubble en 1929.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a entendu dans l'archivage. Hein. Il y a eu deux aspects, on va dire, dans les années 1940, 1950. Il y a eu d'un côté des développements théoriques par l'abbé Lemaître, mais également aussi par d'autres théoriciens, Friedman par exemple, et ils ont, à partir de la théorie de la relativité générale énoncée par Albert Einstein, ils ont appliqué cette théorie à l'univers, et ils se sont rendus compte que une solution naturelle, disons, de cette théorie de la relativité générale, c'était un univers en expansion. Donc, mais au final, cette démonstration théorique théorique n'a pas suscité immédiatement l'intérêt qu'elle aurait dû. Ben, on le sait, du côté d'Albert Einstein, il ne croyait pas à cette idée d'un univers en expansion, mais il lui préférait l'idée d'un univers statique. Et donc, il a fallu attendre des observations faites par Edwin Hubble, notamment dans les années 1930, pour avoir la confirmation, avec les observations, que les galaxies autour de nous s'éloignent de nous. Et donc, si ces galaxies s'éloignent de nous, c'est que la distance entre les galaxies s'éloigne de nous, et les galaxies s'éloignent d'autant plus vite de nous qu'elles sont loin de nous. Donc, c'est cette découverte de l'expansion de l'univers, effectivement.
Bah pour compléter, Étienne Burtin, sur cette découverte majeure de l'histoire des sciences.
Oui, alors ce qui est amusant dans cette archive, c'est qu'ils emploient le terme de nébuleuse. Mmh. En fait, nébuleuse, aujourd'hui, on appellerait ça galaxie. Hein, oui. Donc, il y a un peu cette différence de langage. C'est vrai que les galaxies ont tendance à s'éloigner de plus en plus vite si elles sont de plus en plus loin de nous. Et il faut aussi supposer, pour arriver à cet univers en expansion, que notre position dans l'univers n'a rien de spécial. Donc il faut ces deux conditions pour dire, on imagine que l'univers est en expansion dans toutes les directions et en tout point de l'univers.
Tout à fait. C'est un principe qu'on appelle le principe cosmologique, à partir duquel nous sommes obligés de supposer pour faire ensuite... confronter nos observations avec la théorie.
Jusque dans les années 90, fin 90, les cosmologistes pensaient que l'expansion de l'univers devait progressivement ralentir sous l'effet gravitationnel de la matière. Et patatram, on découvre qu'au lieu de ralentir, l'expansion de l'univers s'accélère, Pauline Zarouk.
En effet, donc, si on prend un univers qui est rempli de matière, donc qui est rempli de galaxies, les galaxies, ce sont des objets massifs qui s'attirent sous l'effet de l'interaction gravitationnelle. Donc on s'attendait que dans un univers rempli de matière, du fait de l'interaction gravitationnelle, de l'attraction gravitationnelle, les galaxies se rapprocheraient les unes des autres et donc que l'univers tendrait à se rétracter. Or, c'est tout l'inverse qui est observé à la fin des années 90, avec notamment des objets qu'on appelle des supernovas de type 1A. Ce sont des explosions d'étoiles en fin de vie, de certaines étoiles, les naines blanches. Et on a observé la luminosité de ces supernovae au cours du temps. Et on s'est rendu compte que les supernovae apparaissaient moins brillantes que ce à quoi on s'attendait. Donc si elles sont moins brillantes que ce à quoi on s'attendait, ça veut dire que la distance que la lumière a dû parcourir était plus grande que ce qui était prévu, et donc que les distances qui nous séparaient de ces objets-là étaient plus grandes que ce à quoi on s'attendait. D'où ce phénomène, cette interprétation d'une accélération de l'expansion de l'univers, des distances entre les galaxies, entre les objets qui augmentent plus vite au cours des derniers 7 milliards d'années qu'au début de l'univers.
Étienne Burtin, en effet, ça c'est une découverte qui a été par la suite nobelisée en 2011.
Oui, alors c'était une découverte. En fait, il y avait quelques prémices, quelques indications avant ça, avec notamment les amas de galaxies. En regardant l'abondance des amas de galaxies, on avait déjà des petites idées. Alors bon, a posteriori, on se dit qu'ils n'étaient pas si loin. Il y avait quand même des indications. Comme Pauline parlait tout à l'heure, il y a les équations de Friedman qui laissaient cette possibilité. Donc dans la communauté des théoriciens, des chercheurs, c'est quelque chose qui était possible. Moi, quand j'étais étudiant dans les années 90, on n'en parlait pas tant que ça. Mais c'est arrivé à la fin des années 90. Il y avait le cadre mathématique qui était là et cette découverte a vraiment assis le modèle cosmologique. C'est la découverte qui a marqué les 25 dernières années. Et on espère que DESY marquera les 25 prochaines.
Et on va venir sur DESY, sur comment DESY va peut-être bouleverser ces prochaines décennies. Mais d'abord, là on parle des découvertes majeures de cette histoire des sciences. Mais donc, pour en tout cas expliquer cette accélération de l'expansion de l'univers, on a introduit l'énergie noire, donc cette composante qui représente 70% du contenu énergétique de l'univers. On ne sait pas ce que c'est, mais on connaît certaines propriétés. Alors quelles sont-elles, Pauline Zarouk ? Qu'est-ce que cette énergie noire pourrait être ?
Alors, ce qu'on sait, c'est l'observation qu'on cherche à reproduire. Donc, cette observation qui est donc l'augmentation des distances au cours du temps, et donc un phénomène qui, au final, s'opposerait à cette gravité qui, elle, tend à faire deux objets massifs veulent se rapprocher. Donc, il faut le voir comme quelque chose qui s'oppose à la gravité et qui pousse les galaxies à s'éloigner davantage les unes d'entre elles. Et donc, une façon de se le représenter, d'un point de vue, disons, un peu phénoménologique, un peu essayant de décrire ce que cela pourrait être. On l'imagine parfois comme un fluide qui nous entoure sur Terre, qui nous entoure partout dans l'univers, mais dont les propriétés ne vont agir qu'à certaines échelles. Donc sur Terre, on ne sent pas l'effet de l'énergie noire, mais aux échelles de distance entre les galaxies, cette énergie noire domine, et c'est cette énergie noire qui pousse les galaxies à s'éloigner les unes d'entre elles.
C'est pour ça qu'on dit qu'elle est dotée d'une pression négative.
Voilà, exact. Ouais.
Oui, alors une image que j'aime bien donner, c'est en fait on a parlé tout à l'heure d'univers en expansion. La quantité de matière dans l'univers, elle est donnée assez rapidement dans l'évolution de l'univers. Et avec du fait de l'expansion, la quantité de matière a tendance à diminuer. La densité de matière a tendance à diminuer au cours du temps. Et à un moment, elle diminue tellement qu'il va rester une composante qui est cette énergie noire. Une fois qu'on a un peu comme si on a enlevé tout le sable qui est sur une côte rocheuse, on a enlevé tout le sable, on a dilué la matière, et il reste quelque chose en dessous qui va faire en fait aujourd'hui le socle de l'énergie de l'univers, vous avez dit 70% tout à l'heure, qui est cette énergie noire. Comme on l'a dit également, énergie noire, c'est juste mettre un nom sur quelque chose qu'on ne comprend pas.
Oui, voilà, comme trou noir, voilà, matière noire.
Matière noire, exactement. Voilà, c'est fait, ça. Ouais. C'est la continuité des noms comme ceci.
Et la seule chose qu'on peut faire après, ce sont des hypothèses. Et souvent, on essaye de commencer avec les hypothèses les plus simples en partant du principe qu'on essaye cette hypothèse la plus simple. Et si elle ne permet pas d'expliquer les observations, alors on va chercher à complexifier nos hypothèses. Et l'hypothèse la plus simple qu'on puisse faire pour décrire les propriétés de cette énergie noire, c'est de supposer que cette énergie noire a des propriétés constantes dans le temps. Dans l'espace aussi, ça c'est par construction de ce qu'on disait, qu'on n'occupe pas sur Terre une place privilégiée. Si on était capable de faire les mêmes observations ailleurs dans l'univers, on verrait la même chose. C'est le postulat qu'on fait. Et donc pour l'énergie noire, c'est pareil. Les propriétés sont a priori partout pareilles dans l'espace, mais on suppose en plus que ces propriétés seraient constantes dans le temps. Et on rejoint donc cette fameuse constante cosmologique qu'on a été du coup amené à réintroduire dans notre modèle actuel de la cosmologie.
Et on va revenir également sur ce modèle actuel de la cosmologie. Mais alors là, pour en savoir plus sur cette énigmatique énergie noire, quels outils on a sous la main pour sonder cette nature-là? On a plusieurs choses. On a par exemple le fond diffus cosmologique qui nous permet d'enquêter sur ces questions-là, Pauline Zarouk.
Oui, tout à fait. Donc on a plusieurs, ce qu'on appelle plusieurs sondes, plusieurs observables de l'univers et plusieurs observables qui vont nous donner des informations à différentes époques de l'univers. Vous avez mentionné le fond diffus cosmologique. Le fond diffus cosmologique, on peut le voir comme la première image de l'univers, si on veut. Donc, c'est les premiers photons, les premières particules de lumière qu'on a réussi à capter sur Terre, qui ont été émis dans l'univers, qui se sont propagés jusqu'à nous. Et cette première lumière nous donne des informations sur l'état de l'univers 380 000 ans après le Big Bang.
Comme un Polaroid il y a 380 000 ans après le Big Bang.
C'est ça. Comme une capture d'écran. L'état de l'univers.
Oui, sauf que tout seul, le fond diffus cosmologique ne contraint pas tellement la nature de l'énergie noire. Il faut amener d'autres moyens de sonder l'univers pour les confronter à fond diffus cosmologique pour pouvoir justement, dans notre langage, on va dire contraindre la nature de l'énergie noire.
Contraindre justement avec d'autres observables.
Exactement.
Donc là, on vient d'évoquer le fond diffus cosmologique, mais il n'est pas tout seul.
Exactement. Donc là, le fond diffus cosmologique, c'est vraiment la sonde pour l'univers qu'on appelle primordial, donc 380 000 ans après le Big Bang, on considère que c'est le début de l'univers. Ça nous donne un peu les informations sur les conditions initiales dans notre système qui va ensuite évoluer sous l'effet de la gravité dans un univers en expansion. Et on a ensuite, disons, trois observables majeurs pour apporter des informations sur l'univers aujourd'hui. Donc on a parlé des supernovas de type 1A, ces explosions d'étoiles en fin de vie qui ont permis de confirmer l'accélération de l'expansion de l'univers. On a ce qui est utilisé par DESY, donc ce qu'on appelle le clustering des galaxies, la distribution spatiale des galaxies, on va certainement y revenir. Et donc ça va être à davantage, là, on va regarder davantage l'information qu'il y a sur la position des galaxies dans le ciel. Et on a aussi une dernière sonde, une dernière observable qui regarde les informations qui sont contenues dans les déformations de la forme des galaxies. par de la matière, ce qu'on va appeler le cisaillement gravitationnel, l'effet de l'anti-gravitationnel.
La lumière est déviée par la présence de matière.
C'est pas les galaxies, leur forme ne change pas, mais c'est l'image qu'on en a.
Exactement.
Par le passage de la lumière au travers de la matière dans l'univers qui modifie la forme apparente des galaxies.
Et comme vous dites, c'est le clustering des galaxies, hein, c'est cette sonde-là qui nous intéresse dans le cadre de DESY. Alors, cette énigme de la matière noire, quel rôle joue le programme DESY dans cette investigation? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Trioux.
L'énergie noire varie-t-elle dans le temps? C'est la question qu'on se pose en direct sur France Culture et avec nos invités Pauline Zarouk et Étienne Burtin. On va parler des prochains résultats de DESY, des résultats qui semblent remettre en question la constance d'une constante cosmologique. On vient de revenir en tout cas sur l'origine de la théorie de l'énergie noire qui représente près de 70% de la densité de l'énergie de l'univers. On a évoqué la matière noire qui représente 25% de la matière et la matière ordinaire, notre matière baryonique, qui, elle, en représente 5%. Venons-en maintenant à ce projet DESY, une collaboration internationale qui réunit plus de 900 chercheurs dans plus de 70 institutions dans le monde entier. On parle quand même d'une observation du ciel depuis mai 2021, avec une précision inégalée jusqu'à présent, Pauline Zarouk. Alors justement, quel est l'instrument en question?
Alors DESY, c'est un télescope qui est situé aux États-Unis, un télescope Mayall qui a un miroir principal qui collecte la lumière qui fait 4 mètres de diamètre. Et donc cette lumière, elle est donc envoyée sur le miroir principal qui fait 4 mètres de diamètre. Puis ensuite, elle est renvoyée au niveau de ce qu'on appelle le plan focal du télescope, là où la lumière est concentrée, par un système d'alignement de focus de la lumière. Et au niveau de ce plan focal, c'est là où est la révolution technologique de DESY. Ce plan focal, il est composé de 5000 fibres optiques dont le positionnement est robotisé. Et donc chacune de ces fibres optiques va recevoir la lumière d'une galaxie, va être positionnée à la position d'une galaxie dans le ciel et va recevoir donc la lumière d'une galaxie, de sorte que toutes les 20 minutes, on collecte en simultané la position de 5000 galaxies. Pour donner un petit tort de grandeur, avec la génération précédente des télescopes, donc notamment le télescope IBOS d'SDSS, sur lequel on va revenir, il fallait à peu près une heure et demie pour collecter la position de 1000 galaxies simultanément. Et ce qu'on va collecter réellement avec DESY, c'est ce qu'on appelle des spectres lumineux, donc avec notamment les spectrographes de DESY qui vont nous permettre d'analyser cette lumière, de déterminer précisément le type de la galaxie que l'on est en train d'étudier. Est-ce que c'est une galaxie plutôt jeune, plutôt vieille, plutôt bleue, plutôt rouge? Et puis surtout de mesurer très précisément la distance à laquelle la galaxie se situe de nous, ce qu'on va appeler aussi le redshift par la suite.
Alors oui, en fait... Pauline fait des gestes avec ses mains.
Oui.
Et vous faites la taille de 10 cm. En fait, une précision intéressante, c'est que le plan focal dont on parle, il fait pas 10 cm, il fait quasiment 1 mètre de diamètre. Hein. On peut imaginer une surface alors, qui correspond un peu à la rétine de l'œil. Hein, c'est la rétine du télescope. Cette surface fait 1 mètre de diamètre et cette surface, elle est tapissée de 5000 petits positionneurs de fibres optiques qui sont déplacés un par un pour justement amener chaque fibre optique sur l'endroit où va se former l'image d'une galaxie provenant du ciel. Et comme Pauline le disait, toutes les 20 minutes, on va changer d'exposition et faire une nouvelle exposition. Mais faut imaginer quelque chose de conséquent. Hein. Les lentilles qui viennent focaliser, qui correspondent à l'oculaire du télescope, les lentilles qui viennent focaliser cette lumière, elles font également des lentilles qui font un mètre de diamètre. Rien que pour polir une lentille, ça prend environ 18 mois de polissage de chacune des lentilles.
Oui, c'est pour ça que depuis 2020, on est dans ce qu'on appelle la quatrième génération de relevés du du ciel, une ère qu'on appelle de cosmologie de précision, Pauline Zarouk.
Oui, on parle de cosmologie de précision statistique, c'est-à-dire que on collecte vraiment davantage de galaxies dans notre échantillon pour ensuite faire nos analyses. Donc pour donner aussi là un ordre d'idée, en un an d'observation avec DESY, on a collecté à peu près 3 fois plus de positions de galaxies, de spectres de galaxies, qu'en 20 ans de la génération précédente. Et ça, c'est possible justement avec ce qu'on disait, cette révolution technologique, le fait de pouvoir observer simultanément la position de 5000 galaxies toutes les 20 minutes. Donc on amasse comme ça beaucoup de galaxies dans notre catalogue pour ensuite reconstruire la distribution en 3 dimensions de ces galaxies et donc de ces grandes structures de l'univers.
Avant de faire de la spectro, faut d'abord imager le ciel et faire ce qu'on appelle un relevé d'imagerie, un relevé global qui a été fait entre 2014 et 2019, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, tous ces grands relevés spectroscopiques nécessitent des relevés d'imagerie. Alors, ce qu'on appelle un relevé d'imagerie, c'est un relevé où on prend juste des images à 2 dimensions de la surface de la voûte céleste, avec différentes, ce qu'on appelle des filtres, filtres qui couvrent un domaine en longueur d'onde donnée. Et ces données sont analysées, et à partir de ces données, on va détecter des sources. Et ensuite, on va choisir, pour la spectroscopie, quelles sont les sources qu'on va mesurer. On appelle ça la sélection des targets. Des cibles. C'est une tâche qui est très importante parce que c'est ce qui va définir vraiment la qualité du relevé. Nous, ce qu'on veut, c'est mesurer des objets qui sont à différentes époques dans l'évolution de l'univers. Et la sélection des sources, c'est vraiment très important parce que ça va nous permettre vraiment de choisir toutes les plages en évolution de l'univers qu'on va mesurer.
D'ailleurs, dans ces targets, dans ces cibles, il y a 4 grandes familles de galaxies observées par DESY, Pauline Zarouk.
Oui, tout à fait. Donc, à ce stade de la stratégie d'observation, donc après avoir fait les relevés photométriques, on a collecté un certain nombre d'informations photométriques, la couleur, la quantité de lumière émise en fonction de différentes gammes de longueur d'onde sur ces galaxies. On est capable, du coup, d'avoir une idée un peu du type de galaxie et donc de la distance à laquelle cette galaxie se situe de nous, mais il va falloir qu'on procède ensuite aux observations spectroscopiques pour confirmer le type de la galaxie et pour mesurer très précisément ce redshift. Et on fait donc ces mesures pour 4 échantillons, 4 types de 4 grandes familles de galaxies, on va dire, les galaxies les plus proches de nous. Donc là, on prend toutes les galaxies jusqu'à une certaine luminosité de la galaxie, qu'elle soit bleue, qu'elle soit rouge, qu'elle soit plutôt jeune, plutôt vieille, c'est jusqu'à une certaine coupure en luminosité. Celles-ci, elles sont très brillantes, effectivement. Et ensuite, par contre, on va aller sélectionner certains types de galaxies pour l'objectif est d'avoir un maximum de galaxies à une certaine époque de l'univers, parce que c'est du nombre de galaxies que va dépendre la précision de nos mesures. Donc on a donc ensuite, après cet échantillon de galaxies, les galaxies rouges lumineuses, ensuite les galaxies bleues, qui sont plus jeunes dans l'histoire de l'univers, et enfin les quasars à très haut redshift, les objets les plus lointains, où ça va être des galaxies avec un trou noir supermassif au centre, donc des objets très brillants qui nous permettent de sonder l'univers très lointain.
Oui, alors c'est vrai que toutes ces galaxies, elles ont des spécificités. Alors, leur formation d'étoiles, à quel moment elles sont de leur histoire de formation d'étoiles. Dans cette discipline, nous, on va utiliser ces galaxies, pas vraiment pour la physique qu'elles sous-tendent, mais comme des points dans une carte de l'univers. Il y a des gens qui font leur carrière sur les galaxies à raie d'émission. C'est des gens que vous pourriez inviter parce qu'ils ont beaucoup de choses intéressantes à raconter. Nous, on a un peu une vision différente. On va vraiment s'en servir pour cartographier les structures de l'univers et en extraire les paramètres cosmologiques.
Donc nous, on va davantage faire des analyses statistiques de la distribution de ces objets-là plutôt que d'aller regarder le processus de formation associé à ce type de galaxie.
Voilà. Mais grâce au fait que ces objets sont différents, justement, ils nous permettent de sonder différentes époques de l'univers.
C'est ce qui vous permet justement de faire cette carte tridimensionnelle du ciel. Là, on a justement une des cartes la plus grande jamais réalisée. Quelles sont les informations qu'on peut tirer de cette carte-là, justement, Pauline Zarouk ?
Alors déjà, cette carte en trois dimensions des structures de l'univers qu'on a commencé à obtenir, hein, comme on le disait au début de l'émission, à la fin des années 90, et qu'on a raffiné, nous montre que les galaxies ne sont pas réparties de manière aléatoire dans le ciel. Il y a des structures, il y a des endroits où les galaxies vont se regrouper et vont former des clusters, on sait ce que c'est maintenant avec le Covid, des amas de galaxies. Et il y a des endroits il y a des endroits dans l'univers qui vont être un peu vides ou sous-denses, très peu peuplés. Ça va être ce qu'on appelle les vides cosmiques. Et l'ensemble de cette hiérarchie de structures va former ce qu'on appelle une toile cosmique, un peu comme une toile neuronale vraiment, avec des concentrations de galaxies, des régions très peu denses, des galaxies qui vont se former le long des filaments. Et c'est toute la description statistique de cette distribution des galaxies qui va nous renseigner sur des informations de l'univers, notamment par exemple la vitesse à laquelle l'univers s'étend, la vitesse à laquelle la matière s'agglomère sous l'effet de la gravité pour former ces structures.
Ouais. Alors en fait, on dit, quand on publie nos résultats, on parle de la carte la plus grande de l'univers. En fait, c'est pas complètement vrai. C'est pas ça qui est le plus important. Le relevé SDSS IBOS avait aussi une très grande carte, quasiment la même taille. Mais nous, on a beaucoup plus de cartes, de galaxies dans notre carte. C'est ça qui est vraiment nouveau avec DESY, c'est qu'on va avoir une bien meilleure précision sur ce qu'on appelle le champ de densité de l'univers, qui va nous permettre d'être beaucoup plus contraignant sur les paramètres cosmologiques. Mais la taille de la carte en elle-même, le volume de la carte, il est pas forcément beaucoup plus grand que les relevés
précédents. Mais sa densité, oui.
Sa densité, oui. Voilà.
Et on reviendra. Vous êtes en train d'introduire très délicatement, petit à petit, le sujet du reportage du jour, mais ce n'est pas pour tout de suite, puisque là on reste encore un peu avec DESY. Et ces derniers résultats, puisque là, on voit que justement, on a des résultats assez surprenants sur cette énergie noire qui se dessine sur cette cartographie, Pauline Zarouk.
Alors effectivement, on a publié des premiers résultats en mars 2024, puis une deuxième série en novembre 2024 et les derniers en mars dernier. Et ces trois résultats confirment en tout cas ce qu'on avait commencé à voir, qui est que lorsque nos analyses obtenues avec les observations de DESY sont combinées à des analyses faites à partir du fond diffus cosmologique dont on parlait, cet observable qui nous permet d'avoir des informations sur le début de l'univers. Lorsqu'on combine ces deux informations, des informations sur le début de l'univers et des informations sur l'univers actuellement, et qu'on regarde notamment cette histoire de l'évolution des distances au cours du temps dans l'univers pour confronter cette évolution à différents scénarios sur l'énergie noire, un scénario où l'énergie noire a des propriétés constantes ou un scénario où l'énergie noire a des propriétés qui varient au cours du temps, on se rend compte que on a une préférence qui se dessine. On en est vraiment pas au stade d'une détection, mais plutôt d'une préférence qui semble se dessiner vers un modèle où l'énergie noire aurait des propriétés qui varient au cours du temps. Et donc une déviation par rapport à notre hypothèse actuelle la plus simple, qui serait une constante cosmologique, des propriétés constantes au cours du temps pour l'énergie noire.
Voilà. Pour résumer, aujourd'hui, on a des mesures plus précises qui montrent qu'entre les choses mesurées par le fond diffus et celles mesurées par DESY, il y a un écart qu'on n'explique pas pour l'instant.
Voilà, exactement. Quelque chose qui est arrivé cette année, grâce aux données de DESY et grâce aux données, les nouvelles données du fond diffus cosmologique. On voit que dans le modèle standard de la cosmologie qu'on appelle lambda CDM, hein, lambda pour la constante cosmologique, CDM pour en anglais matière noire froide, on voit que nos données, celles de DESY et celles du fond diffus cosmologique, sont en tension. Alors, en tension, ça veut dire que dans le cadre du modèle cosmologique standard, elles ne prennent pas compte de la même façon de la nature de l'univers. Et ça c'est vraiment nouveau et c'est très important parce que toutes les interprétations qui sont faites depuis un moment, notamment par exemple sur le sujet de l'inflation cosmique, peut-être que vous en avez entendu parler, il faut une phase d'inflation très très exponentielle au début de l'univers pour expliquer ce qu'on voit aujourd'hui. Eh bien, avec ces données-là, ça changerait la physionomie de ce phénomène physique parce que il y a des différences qui sont observées. Donc on est au stade où même les fondements un peu de la pensée qu'on a au niveau de la cosmologie sont un peu en train de vaciller parce que il y a des nouvelles données et qu'il faut expliquer pourquoi ces données sont en tension. Hein. Est-ce que c'est de la nouvelle physique? Alors est-ce que c'est ce qu'on espère ou pas? On a eu cette discussion il y a longtemps avec Pauline. Est-ce que je ne sais plus quel point de vue chacun de nous avait.
Pas le même.
Et voilà, c'est ça. Est-ce qu'on a envie d'acquérir de la nouvelle physique? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, de changement dans le modèle cosmologique. Global.
Alors voilà, est-ce qu'on a là une fluctuation statistique, une illusion? Au contraire, est-ce qu'il s'agit de la mise en évidence d'un phénomène nouveau, bien réel? Comment faire la part des choses? On continue de faire lumière sur l'énergie noire, restez à l'écoute. Supernovae de Sudden Death of Stars en direct sur France Culture, car les supernovae sont ces outils qui nous permettent de sonder l'énergie noire. On en parle avec nos deux énergies noires du jour, j'allais dire. Nos deux invités très énergiques du jour, avec Pauline Zarouk, cosmologiste chargée de recherche CNRS au laboratoire de physique nucléaire et des hautes énergies à Sorbonne Université, et Étienne Burtin, physicien à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers du CEA de Saclay et ancien co-responsable du groupe d'analyse des données de DESY. DESY dont on vient de parler, hein, cet instrument qui nous a offert un relevé spectroscopique de quatrième génération qui cartographie en trois dimensions des dizaines de millions de galaxies et de quasars. L'objectif est de retracer l'histoire de l'expansion cosmique sur environ 11 milliards d'années. On n'est pas encore rentré à ce niveau de détail-là, mais il faut absolument qu'on parle ensemble, Pauline Zarouk, des BAO, ou les oscillations acoustiques baryoniques, qui sont une sorte de maître étalon, de distance étalon dans cette affaire-là.
En effet, donc on utilise ces oscillations acoustiques de baryons ont un effet caractéristique dans la distribution des galaxies qu'on observe aujourd'hui et qu'on va utiliser pour mesurer l'évolution des distances au cours du temps. Donc on peut le voir effectivement comme une échelle caractéristique de séparation entre les galaxies. Deux galaxies vont être préférentiellement séparées de 500 millions d'années-lumière. Et cette distance caractéristique, elle va évoluer au cours du temps uniquement du fait de l'expansion de l'univers. Il n'y a rien d'autre qui va l'affecter. Donc en mesurant cette distance caractéristique entre les galaxies, et ce dans n'importe quel type d'échantillon de galaxies, que les galaxies soient bleues, rouges, jeunes, vieilles, on va toujours retrouver cette distance caractéristique entre les galaxies qu'on va pouvoir mesurer à différentes époques de l'univers et donc retracer l'histoire de l'évolution de l'expansion de l'univers.
Étienne Burtin.
Oui, alors cette distance de 500 millions d'années-lumière...
Elle est en unité,
comme... non, c'est pas ça. en fait, ce qu'il faut voir, c'est à quoi ça correspond. Hein, la Voie lactée, la plus proche voisine, c'est la galaxie d'Andromède, qui est à 2 millions d'années-lumière. Si on regarde ensuite l'amas de Virgo, l'amas cluster, on est autour de aller entre 10, 20, 30, 50 millions d'années-lumière. Et là, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus loin que la structure proche. Hein, donc, on va avoir le clustering de la matière proche de la Voie lactée, par exemple. Mais ce phénomène de BAO, l'empreinte qu'il laisse dans la répartition des galaxies, c'est beaucoup plus loin que les structures classiques de l'univers qu'on peut voir, hein, cette toile cosmique. Mais donc c'est quelque chose qu'on va aller chercher beaucoup plus loin, justement, avec des méthodes statistiques.
Pour aller encore un peu plus loin sur cette question de cette constante, peut-être inconstante. On a donc cette hypothèse d'une énergie noire qui évolue dans le temps, qui semble se renforcer. Maintenant, alors pour aller plus loin, pour répondre à cette question, est-ce qu'on a besoin donc de comparer les données avec un très grand nombre de données encore plus élevées, encore plus précis, Pauline Zarouk?
Alors, il y a plusieurs façons, on va dire, d'augmenter notre sensibilité aux propriétés de l'énergie noire. Une première façon, c'est effectivement d'accumuler plus de données. Comme on l'a dit, notre précision dépend du nombre de galaxies qu'on va observer, donc du nombre de galaxies dans notre carte. Donc, si on augmente le nombre de galaxies qu'on observe, on va pouvoir faire des mesures plus précises. Ça, c'est vrai pour un certain régime, pour certains échantillons de galaxies, mais c'est vrai aussi que pour avoir une sensibilité plus accrue aux propriétés de l'énergie noire, il faut améliorer notre sensibilité dans l'époque où l'énergie noire domine, donc aujourd'hui, les galaxies les plus proches de nous, et améliorer nos mesures autour de l'époque avant que l'énergie noire domine, pour essayer d'avoir le bras de levier le plus important entre avant que l'énergie noire domine et aujourd'hui où l'énergie noire domine beaucoup.
Ouais, je voulais amener une petite précision. En fait, ce phénomène de BAO, c'est un phénomène qui provient de la propagation d'ondes acoustiques dans l'univers primordial. L'univers primordial, il était sous forme de plasma. Un plasma, c'est un peu comme un gaz chargé. Et dans un plasma, il va se produire ce phénomène d'oscillation acoustique. C'est quelque chose qu'on peut reproduire en laboratoire, hein, des ondes ioniques dans un plasma. C'est quelque chose qu'on pourrait faire, une expérience, peut-être au Palais de la Découverte. Et ce phénomène, il va laisser des empreintes. Donc, il se termine au moment de l'émission du fond diffus cosmologique. Et ensuite, il va laisser une empreinte dans la fluctuation de densité de l'univers. Et par la suite, cette distance caractéristique qui existe déjà à ce moment-là, elle va subir seulement l'expansion de l'univers. Et donc, en mesurant ça à différentes époques, comme Pauline l'a dit, avant que l'énergie noire domine et pendant la phase où elle commence à dominer et ensuite, on va voir l'histoire de l'expansion de l'univers. Parce que ce phénomène a juste subi, une fois qu'il était formé, l'expansion de l'univers. Et ça va nous permettre d'en apprendre justement sur l'énergie noire.
Voilà. Mais c'est pas la seule, comment dire, information qu'on peut extraire de nos cartes. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, je disais, donc pour améliorer notre sensibilité, on peut accumuler plus de données. On le fait, mais on doit et on peut aussi, et c'est ce qu'on fait actuellement, raffiner nos méthodes d'analyse pour extraire plus d'informations qui est déjà contenu dans nos cartes et que nous n'exploitons pas avec nos méthodes d'analyse. Pas par fainéantise, bien évidemment, mais tout simplement parce que ces méthodes d'analyse sont plus complexes. Et il y a deux objectifs quand on développe nos méthodes d'analyse. On veut des méthodes qui soient les plus robustes possibles, donc qui fournissent des résultats sur lesquels on puisse réellement asseoir notre certitude et construire notre vision du modèle cosmologique. Ça, c'est les résultats BAO. Mais on essaye aussi de raffiner nos mesures en développant des analyses plus complexes, et dans ces cas-là, c'est avec les mêmes données, mais en raffinant nos méthodes.
Donc voilà, accumuler les données. DAISY, c'est un projet qui fait suite à un projet antérieur, BOSS et e-BOSS, et c'est le sujet de notre reportage du jour. Alors, étudier l'évolution de l'énergie noire repose sur des méthodes observationnelles et d'analyse d'images qui précèdent la mission DAISY, un travail qui s'inscrit dans le sillage du programme e-BOSS du SDSS, le Sloan Digital Sky Survey. Désolée pour mon terrible accent en anglais. Et bonjour Céline Lozen.
Bonjour Natacha.
Pour comprendre ces méthodes, vous êtes allée rencontrer le scientifique français responsable de l'activité e-BOSS au laboratoire de physique des hautes énergies de Sorbonne Université.
Oui, il s'agit de Christophe Galland qui, depuis les débuts du projet BOSS, travaille sur l'analyse des observations, des traceurs qui peuvent être des galaxies bleues, rouges, très brillantes, ou bien des quasars, auxquels on essaie de poser des contraintes pour évaluer l'expansion cosmique et donc la dynamique de l'énergie sombre. C'est une démarche en cosmologie, on cherche à contraindre les modèles pour élaborer des théories cohérentes. C'est pourquoi, à cette fin, on traque l'hydrogène neutre qui baignait l'aube cosmique et sa signature témoin qu'on appelle la Ray Lyman Alpha.
Donc nous, on s'est concentré sur ce traceur qu'on appelle Lyman Alpha. Il y a d'autres traceurs, donc des types de galaxies, des galaxies rouges, des galaxies à raies d'émission. Donc nous avons collecté, récupéré hein, de la collaboration donc des spectres, c'est-à-dire la décomposition en gros de la lumière qui nous provient des quasars en fonction de la longueur d'onde, on va dire, ou de la fréquence du rayonnement. Et ces spectres, ils ont, lorsqu'on regarde, ils ont d'abord, ils sont caractérisés par une raie d'émission extrêmement intense qui correspond à l'émission Lyman Alpha. Et lorsqu'on regarde aux longueurs d'onde plus courtes que cette émission-là, on a une série d'absorptions. C'est pour ça qu'on parle de forêt. Donc la carte EBOS, qui a maintenant donc 6 ans, hein, on l'a publiée en 6 ans.
Quelle est la méthode vraiment, vous qui étiez en charge en fait ici au LPNHE, d'élaborer ces cartographies tridimensionnelles?
Alors donc nous, on s'est concentré sur ce traceur qu'on appelle Lyman Alpha parce que en fait ce sont des absorptions, donc ce sont des zones où la lumière a disparu. Donc pour nous, ça se traduit par moins de lumière tout simplement. Et ils sont extrêmement proches les uns des autres et ça donne cette impression de forêt, donc de mélange de ces absorptions. Et donc en fait, à partir de ces données, on fait ce qu'on appelle une réduction, c'est-à-dire qu'on reçoit des données brutes, il va falloir les rendre intelligibles. Pour ça, on a évidemment ce qu'on appelle un pipeline, c'est-à-dire en fait toute une série de procédures automatisées pour éliminer des bruits de fond, calibrer. Et une fois qu'on a réduit ces données, on va faire ce qu'on appelle une opération de corrélation. Et même nous, on parle d'autocorrélation, c'est-à-dire qu'on va prendre, avec EBOS, on a eu à peu près 200 000 spectres de forêt Lyman Alpha, et pour chaque absorption, on va la corréler avec toutes les autres absorptions de tous les autres spectres de Lyman Alpha. Et donc, on a un aspect donné, mais on a aussi un aspect modélisation qui est très important, puisque la finalité, c'est de pouvoir, en fait, ajuster un modèle sur des données, et c'est ça qui va nous permettre ensuite de contraindre les paramètres qui décrivent l'expansion de l'univers, qui est quand même la finalité de ce qu'on fait en cosmologie, comprendre l'expansion de l'univers hein, et ses caractéristiques.
Est-ce qu'on pourrait voir un peu les outils que vous utilisez justement pour décrire toutes ces étapes que vous venez d'évoquer?
Alors oui, on peut aller...
Une fois que vous piochez donc dans ces échantillons, quel programme vous utilisez? Est-ce pour nettoyer, dégraisser, débruiter ces signaux?
Oui, alors en fait, ce que je vous montre, c'est un spectre de quasars qui est caractérisé par cette raie d'émission extrêmement forte. Alors, dans le référentiel du quasar, cette émission, elle se fait à une longueur d'onde qui est de 1216 angstrom. Nous, on travaille en angstrom en astrophysique. Et si vous regardez donc à droite, c'est-à-dire vers les plus grandes longueurs d'onde, on a un spectre qui est relativement lisse, sans trop d'aspérité. Alors que si on regarde à gauche, c'est-à-dire aux plus courtes longueurs d'onde, c'est beaucoup plus erratique et on voit en fait ces absorptions importantes et nombreuses. Hein, et c'est exactement ça qu'on appelle la forêt Lyman Alpha. Donc ça, c'est vraiment la brique élémentaire de ce que nous allons utiliser pour faire ces analyses. Et donc c'est ce qu'on voit ici, si vous voulez. Donc dans ce travail-là, on a fait des mesures de distance. On a ici ce qu'on appelle la distance de Hubble, c'est-à-dire la distance qu'on va mesurer dans la ligne de visée, au redshift de 34, et donc on a mesuré un rapport de cette distance de Hubble à l'horizon du son de 9, avec plus ou moins, vous voyez, un certain nombre de chiffres. Au début, on a ce qu'on appelle les erreurs statistiques, et ensuite les erreurs systématiques. C'est notre meilleure estimation. Et la deuxième règle que vous voyez ici, la deuxième mesure, pardon, que vous voyez ici, c'est la distance, cette fois-ci, transverse, lorsque je regarde, en fait, deux objets, mais de façon transverse dans le ciel, toujours au même redshift. C'est le redshift moyen de nos absorptions Lyman alpha rapporté à notre règle standard. Et là, on a mesuré 36,98 avec une précision qui est un petit peu moins bonne pour celle-là que pour celle-là. Alors ça se traduit ensuite sur des contraintes. À partir des ajustements de distance en fonction du redshift, on va obtenir des contraintes qui se représentent sous la forme d'ellipses, comme vous pouvez voir, d'ellipses colorées. Donc ici, c'est un espace où on a mis en ordonnée la densité de constantes cosmologiques, c'est-à-dire la densité d'énergie noire, si vous voulez, hein, de cette composante de l'univers qui serait responsable de son accélération et qu'on essaie de caractériser, en fonction en abscisse de la densité de matière noire. cette fois-ci. Donc vous avez la matière ici et vous avez l'énergie noire ici. Et ce qu'on voit, ce sont trois ellipses colorées qui définissent des lieux de plus forte probabilité de trouver des combinaisons entre cette densité d'énergie noire et cette densité de matière.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire des zones d'intersection alors ?
Alors justement, donc ces trois zones colorées correspondent à des contraintes qui sont posées par la combinaison de différentes sondes expériences. Par exemple, vous avez là une ellipse rouge dans laquelle on a c'est vraiment le signal d'oscillation acoustique de baryon, mais dans lesquelles on a combiné un échantillon de galaxies, un échantillon de quasars et un échantillon bien sûr donc de forêt Lyman alpha qui sont ici, et on les compare par exemple à l'ellipse verte qui sont les contraintes données par les supernovae. Et évidemment, si on maîtrise bien les erreurs systématiques sur ces différentes contraintes, on parle du même univers, donc on devrait trouver un résultat compatible. Et c'est donc l'intersection entre ces différentes ellipses qui va nous permettre de réduire, de mieux préciser, si vous voulez, les valeurs de ces paramètres-là.
Et vous qui avez était directement impliqué sur BOSS et IBOSS. Mmh. Est-ce qu'on peut attendre encore un gain de précision avec le DESY qui, au niveau instrumental, là, on est dans des échelles de précision encore plus élevées?
Oui, alors au niveau instrumental, mais aussi au niveau de l'ampleur, hein, du volume d'univers qui est observé, du nombre de traceurs, même si ce sont les mêmes, hein, essentiellement que IBOSS. Mais oui, bien sûr, la précision sur la constante de Hubble, on était autour de quelques pourcents. On va descendre, bien sûr, à nettement moins du pourcent avec DESY. Voilà, donc on entre avec DESY, on est déjà entré dans une ère effectivement palpitante.
Merci Céline Lozen. Nos reportages qui nous font sortir du studio pour découvrir le travail de la recherche scientifique en cours, c'est notre collection La Science au Labo et c'est à podcaster sur l'application Radio France. Étienne Burtin, une réaction à l'écoute de ce reportage ?
Oui, ce qu'on appelle les forêts Lyman alpha, c'est un joli nom poétique, mais c'est avant tout un moyen, c'est le meilleur moyen de sonder l'univers tel qu'il était il y a à peu près 11 milliards d'années. Hein, donc dans la mesure qu'on fait de l'histoire de l'expansion de l'univers, cette mesure, grâce aux forêts Lyman alpha, nous renseigne sur l'expansion de l'univers à ce moment-là de l'évolution de l'univers. L'autre point important, c'est que ça nous renseigne sur l'expansion de l'univers mesurée à partir non pas de galaxies formées, hein, structurées gravitationnellement, mais à partir du gaz intergalactique. Et ça permet de compléter l'image qu'on a de l'univers. Et c'est quelque chose qui est fait dans mon laboratoire et qui est fort intéressant.
Pauline Zarouk ?
Oui, moi, ce que j'ai beaucoup aussi apprécié dans ce reportage, c'est qu'on aborde toutes les étapes de l'analyse, donc depuis l'extraction des données brutes, leur exploitation, donc au moyen d'outils statistiques. On disait qu'on fait des analyses statistiques de cette distribution des galaxies et des forêts Lyman alpha, jusqu'à l'obtention de contraintes, de mesures, de paramètres du modèle cosmologique. Ces mesures vont être d'autant plus précises qu'on va donc combiner différentes observations entre elles. Donc on en revient à ce qu'on disait au début, que pour avoir les meilleures informations sur la meilleure précision sur les propriétés de l'énergie noire, on a besoin de combiner différentes observables de l'univers. Et cette complémentarité entre les observables est essentielle, aussi bien parce que, comme c'est dit dans le reportage, ces différentes observables d'un même univers, donc on doit tendre vers la description du même phénomène physique. Et mais en plus, comme on observe ce phénomène sous différents angles, on est capable d'améliorer notre compréhension de ce phénomène-là.
Mais d'ailleurs, il y a d'autres programmes autres que DESY qui sont complémentaires et qui vont nourrir justement cette enquête, Pauline Zarouk. On peut évoquer LSST, ces acronymes, et le DES également, par exemple.
Tout à fait. Alors, il y a des programmes. Oui, il y a des programmes qui sont un petit peu, antérieurs à DESY, qui étaient contemporains à SDSS, IBOS. Donc, c'est notamment le cas du programme DES pour Dark Energy Survey, qui a publié ses derniers résultats, qui a collecté des données pendant 6 ans, et donc ils ont publié leurs derniers résultats, la série de derniers résultats, il y a 2 semaines. Et donc ça, c'était encore la génération précédente des relevés. Et dans la nouvelle génération des relevés du ciel, on a bien sûr parlé de DESY, mais on a également le Rubin, l'observatoire Rubin qui va faire un programme d'observation du ciel qui s'appelle le LSST, avec un télescope au Chili pendant 10 ans. Et on a aussi le satellite européen Euclide qui a été lancé en 2023 et dont les premiers résultats scientifiques sont attendus pour la rentrée de cette année.
Automne 2026, tout à fait. Alors maintenant, si le caractère variable de l'énergie noire est confirmé, qu'est-ce que ça change ? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Pauline Zarouk et Étienne Burtin, nous parlons d'une révolution, peut-être en cosmologie. Selon l'instrument DESY, l'énergie noire ne serait pas une constante. On vient de voir que aucune théorie ne permet d'expliquer de manière satisfaisante le mécanisme à l'origine de l'accélération récente de l'expansion de l'univers. Il y a 6,7 milliards d'années seulement, ni rien sur la nature de l'énergie noire. Ensuite, on voit que dans l'univers proche, on commence à avoir une déviation. Le résultat suggère que l'énergie noire n'est pas une constante, mais qu'elle évolue au cours du temps. Comme on vient de le dire également, il nous faut d'autres données, d'autres résultats, mais jouons le jeu du « et si », Étienne Burtin. Est-ce que une énergie noire qui évolue dans le temps, ça ne remet pas en cause le cadre global du modèle cosmologique standard ?
Ça serait le modèle cosmologique standard, il est standard aujourd'hui. Celui de demain, il faut l'écrire aujourd'hui. C'est vrai que l'eau, l'air, la terre et le feu, ça a marché pendant très longtemps. Notre modèle cosmologique standard, oui, il doit évoluer avec la précision. C'est ce qui se passe pour ça qu'on fait des mesures de précision, parce que à chaque fois qu'on augmente la précision, eh bien, on raffine le modèle. C'est vrai que l'histoire de l'expansion de l'univers, elle marche pas mal dans le modèle lambda-CDM, qui est le modèle standard, à 2% près. Donc on est quand même pas si mal. On décrit l'univers à 2% près, mais ces 2% qui restent sont passionnants, parce que, justement, ils remettent en question cette fameuse constante cosmologique qui avait été introduite par Einstein. Voilà, juste avec 2% d'écart, on peut remettre en doute cette théorie, mais voilà, on peut dire qu'il y a peut-être autre chose.
Ce sera quelque chose, quand même. Oui. Par rapport justement à ce cadre global du modèle cosmologique standard, Pauline Zarouk.
Non, tout à fait, c'est passionnant. C'est passionnant aussi d'être jeune chercheur et chercheuse, et je ne sais pas que jeune, mais à cette époque, parce qu'on sait que les prochaines décennies vont être très riches. Et pour la question de la remise en question du modèle complet, ce qui est sûr, c'est que dans le modèle actuel, qui est donc ce lambda CDM, lambda pour cette constante cosmologique, et il y a donc le cold dark matter, matière noire, on remet effectivement en question le lambda. On ne remet pas forcément en question le reste. La nécessité d'une matière noire est pour le moment indépendante de la nature de l'énergie noire. Mais c'est vrai que sur la question de ce mécanisme à l'origine de l'accélération et l'expansion de l'univers, si on détrône la constante cosmologique, on ouvre la porte pour, on l'espère, une compréhension plus fine de ce qu'est ce mécanisme à l'origine de l'accélération et l'expansion de l'univers. Parce qu'une fois qu'on a mis la constante cosmologique dans nos équations, on n'explique pas la valeur de cette constante, on n'explique pas pourquoi l'énergie noire devrait avoir des propriétés constantes. Et donc, du coup, forcément, on espère qu'elle est incomplète, cette description-là, avec la constante cosmologique. Si c'est effectivement le cas, alors il y a déjà sur le marché, dans notre domaine, proposé par des théoriciens, des modèles alternatifs qui offriraient des explications plus physiques, des motivations plus physiques du mécanisme à l'origine de l'accélération de l'expansion de l'univers. De la gravité qui se modifie, des particules qui se rajoutent et qui interagissent avec elles-mêmes. Bref, on peut imaginer beaucoup de façons de faire, mais c'est surtout que c'est la porte ouverte pour une compréhension plus fine et physique du mécanisme à l'origine de l'accélération de l'expansion de l'univers.
Étienne Burtin.
Oui, alors en fait, je voulais intervenir parce que cette partie énergie noire, c'est une partie importante de DESY, de la recherche, mais il y a d'autres choses. Pauline en a parlé tout à l'heure, elle a mené une analyse sur ce qu'on appelait la forme globale de la distribution, de cette fonction de corrélation des galaxies, qui permet de tester la relativité générale. Avec nos données, on a aussi des moyens, non seulement de mesurer l'expansion, mais de tester la relativité générale. Et avec les relevés futurs, et déjà on a des mesures aujourd'hui, on va essayer de contraindre les modèles d'inflation cosmique dont je parlais tout à l'heure en regardant d'autres types de mesures. Et c'est quelque chose qui va être l'objet des prochains relevés comme DESI2 ou comme le WST sur lequel je travaille.
Et tout à fait, DESI2. Alors dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbo, mais en effet, DESI se termine au printemps 2026, mais un financement a été obtenu pour la suite, donc DESI va continuer jusqu'à la fin de 2028. Et donc un grand merci à vous deux de nous avoir accompagnés tous les deux tout au long de cette heure et de nous avoir fait voyager. Et aussi quand même, il faut le dire, un peu rêver. Tout de suite, on quitte le cosmos, on revient sur Terre et on se penche pour observer les fourmis. C'est la chronique avec science.
Comment le climat dicte la structure des sociétés de fourmis? Avec plus de 15 000 espèces différentes à travers le monde, sur tous les continents sauf l'Antarctique, les fourmis présentent de grandes variations dans leur organisation. Il y a des grandes ou des petites colonies, d'une dizaine d'ouvrières à des millions d'individus, une ou plusieurs reines, on parle de sociétés mono ou polygynes, et puis il y a la division du travail, avec des ouvrières, petites mains à tout faire, avec les soldates qui défendent le nid, les exploratrices qui vont chercher de la nourriture. Et bien sûr, tout est au féminin puisque chez les fourmis, les mâles ne servent qu'à la reproduction. La grande question sur ces structures, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui détermine ainsi l'organisation des fourmis? Cléo Bertelsmeyer est professeure dans le département d'écologie et d'évolution de l'Université de Lausanne.
Dans la littérature, les gens ont fait beaucoup de progrès ces dernières années sur les causes génétiques des différentes formes de socialité. Donc, ils ont trouvé dans les génomes des fourmis, par exemple, des régions qui influencent le fait d'être polygyne, donc avoir plusieurs reines ou une reine. Mais voilà, des connaissances se sont portées essentiellement sur la génétique. Et l'environnement a été assez négligé, même s'il existait, bien sûr, des hypothèses par rapport à différents facteurs. Donc, on pense, par exemple, que dans les environnements environnement plus dur, donc il fait froid, il y a des saisons très marquées, il y aurait un avantage d'avoir des grandes colonies. Donc il y a des articles qui ont suggéré ça, mais ces travaux se sont toujours portés sur des régions particulières ou sur une espèce. Au sein d'une espèce, elle a plus de reines en bas d'une montagne qu'en haut d'une montagne, ce genre de choses. Mais personne n'a essayé de faire une étude à l'échelle globale sur plusieurs aspects de ces sociétés de fourmis.
La génétique joue un rôle, c'est certain, mais elle ne fait pas tout. Si la socialité est si souvent évoquée pour expliquer le succès écologique des fourmis, alors est-ce que le climat, les variations de température, d'humidité, de saison pourraient diriger ce choix? C'est ce qu'a voulu étudier cette nouvelle étude parue dans la revue PNAS. Elle fournit la première analyse globale et mondiale des structures de fourmis en fonction de l'environnement. 3299 espèces ont été impliquées dans cette étude. Cela fait près de 15 ans que cette chercheuse a démarré cette base de données pour recenser le nombre de reines, la taille des colonies et le polymorphisme des ouvrières, donc si elles se ressemblent ou non. Trois traits sociaux clés confrontés au climat du monde. Résultat, oui, la structure des fourmis dépend de leur environnement et de façon étonnamment très nette.
On s'attendait pas à des patterns, à des structures aussi claires. D'abord, on a trouvé que dans des régions tropicales, on a des sociétés qui sont essentiellement monogynes, avec une seule reine, des petites colonies et qui présentent des différences de taille chez les ouvrières. C'est peut-être lié au fait qu'il y a beaucoup de concurrence entre les fourmis dans ces environnements pour l'espace. Donc, des petites colonies peuvent être favorables. Il y a aussi beaucoup de compétition pour des ressources. Donc, si on a des ouvrières de tailles différentes, ça pourrait aider à exploiter une plus grande variété de ressources différentes. Ensuite, on a trouvé dans les déserts que des sociétés avec plusieurs reines, des grandes colonies et de nouveau des sociétés avec des différences de taille chez les ouvrières sont dominantes. On pense que peut-être que le fait que les conditions sont très dures, ça présente beaucoup de risques pour les fourmis qui sortent. Peut-être que c'est avantageux d'avoir une grande colonie. Comme ça, même si certains ouvrières meurent, ce n'est pas si grave pour la colonie. Elle continuera à fonctionner.
Une reine solo sous les tropiques, des colonies géantes dans le désert. polaire, et puis une troisième structure. Sous nos latitudes, dans les régions tempérées, il y a plusieurs reines, avec des ouvrières semblables et plus polyvalentes. Cette fois, l'explication tiendrait aux grandes variations de saison. Avec des ressources qui changent beaucoup au fil de l'année, les animaux n'auraient pas vraiment intérêt à être sur-spécialisés. Finalement, cette adaptation expliquerait pourquoi les fourmis ont ainsi conquis le monde. La suite consiste à élargir le tableau. 3299 espèces, cela ne représente qu'un quart de l'ensemble de cette grande tribu. Il pourrait encore y avoir des surprises. L'enjeu est donc d'intégrer davantage de données et d'explorer d'autres aspects de la vie sociale des fourmis, comme leur comportement, pour comprendre toutes les facettes de l'influence du climat sur ces sociétés.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Maguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchon, Céline Lozen, Alexandre Morales, Louise Ormond-Séji. À la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Ludovic Auger. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.